Authentique Traveler, la carte prépayée, rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, ravie de terminer la semaine avec vous dans Appel sur l'actualité. Aujourd'hui, vendredi, c'est la Libre Antenne. Dans une demi-heure, vous interviendrez sur les sujets qui vous ont intéressé cette semaine. Vous avez choisi de revenir sur la victoire in extremis du camp présidentiel aux législatives au Sénégal. Vous évoquerez le départ des troupes françaises du Mali et de la crise, qui s'aggrave entre Bamako et Paris. Vous parlerez du raidissement de la junte guinéenne après la dissolution du FNDC. Et puis, vous saluerez la mémoire du chanteur rwandais Ivan Bouravan, prix Découverte RFI 2018, qui vient de disparaître à 27 ans seulement. Vous pouvez encore nous contacter sur WhatsApp au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. On aurait pu croire que le départ des forces de Barkhane du Mali lundi allait calmer la tension entre Paris et Bamako. C'est tout le contraire. La crise entre les deux pays va crescendo. La junte malienne a accuse maintenant Paris d'armer les terroristes et elle a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. Kassoum, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour aux auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Bamako au Mali. À mes côtés en studio, David Bachet du service Afrique de RFI. Bonjour David.
Bonjour Chantal, bonjour Kassoum.
Kassoum, on vous écoute, vous avez la parole.
Le Mali accuse l'armée française de soutien aux djihadistes et de violation de son espace aérien. Dans une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, j'aimerais savoir quelles preuves concrètes le pouvoir malien met-il en avant.
David Bachet.
Alors en fait, il y a, vous l'avez dit, deux accusations qui sont portées contre l'armée française. La première, c'est celle de violer de manière répétée l'espace aérien malien. Et la seconde, c'est de le faire pour apporter des renseignements, des armes et des munitions aux groupes terroristes. Alors sur la première accusation, la lettre du ministre est très détaillée, avec une série de documents en annexe. Au total, Abdoulaye Diop déplore une cinquantaine d'intrusions de drones, d'hélicoptères ou d'avions de chasse français dans le ciel malien depuis le début de l'année. Ces événements sont en grande partie listés et détaillés avec des lieux, des dates et même parfois des éléments de contexte et d'analyse. L'exemple le plus mis en avant par le chef de la diplomatie malienne, c'est celui de Gossi, le 20 avril dernier. À l'époque, le Mali et la France s'accusaient réciproquement d'être les auteurs d'un charnier découvert à proximité du camp militaire que l'armée française venait de restituer au Mali dans le cadre de son désengagement du pays. La France avait dénoncé une campagne de désinformation orchestrée par les nouveaux alliés russes de Bamako et elle s'appuyait pour cela sur des images qui avaient été rendues publiques et dans lesquelles on voyait des hommes présentés par Paris comme des mercenaires du groupe Wagner et des soldats maliens creuser le sol. Résultat, dans sa lettre, Abdoulaye Diop dénonce la présence illégale d'un drone des forces françaises. Il parle d'espionnage, il parle de subversion. Le ministre explique également qu'une patrouille de Mirage 2000 des avions français a le lendemain même survolé à plusieurs reprises un convoi de l'armée malienne qui se rendait à Gossi, ce qu'il considère comme une manœuvre d'intimidation. Alors, je ne vous les énumère pas tous, mais donc, dans sa lettre adressée au Conseil de sécurité, Abdoulaye Diop dresse une longue liste d'exemples de ce type, ce qui laisse penser que l'armée malienne dispose d'éléments concrets, d'enregistrements, de données de vol, qui lui ont permis de dresser une telle liste précise et détaillée.
Alors ça, ce sont les exemples concrets et étayés côté malien. Que dit la France ?
Alors l'armée française n'a pas répondu point par point, elle n'a pas répondu cas par cas, mais pour continuer sur cet exemple le plus frappant de Gossi, elle s'était déjà justifiée par le passé en expliquant que Gossi n'était à ce moment-là pas inclus dans la zone d'exclusion aérienne imposée par le Mali et que donc ses survols étaient légaux. Un autre élément à préciser, il n'est pas impossible que certaines de ces intrusions soient contestées par la France et qu'elles nient être à l'origine de certains des vols répertoriés par le Mali. Pour le moment, on n'a que les affirmations de la partie malienne. Dernière chose, certaines de ces intrusions ont déjà été reconnues par l'armée française. Par exemple, celle de Talataï, le 6 août, il y a deux semaines. Barkhane avait revendiqué, dans un communiqué officiel, avoir mené des frappes aériennes antiterroristes. Sans l'autorisation du Mali, dit le ministre Abdoulaye Diop. Et là se pose une autre question Chantal, une autre question Kassoum, celle de la légalité des interventions de Barkhane qui ont eu lieu entre le moment où le Mali a officiellement dénoncé les accords de défense qui le liaient à la France, et ça c'était seulement au mois de mai dernier, le 2 mai, et la fin du désengagement de Barkhane, et ça c'était au début de cette semaine. au cours de cette période, il y a une forme de flou et surtout de divergence entre les deux pays sur ce que Barkhane était encore légalement en mesure de faire sur le territoire malien.
Alors voilà pour les violations de l'espace aérien, David, et pour l'accusation la plus grave, celle de soutien direct au groupe djihadiste.
Alors cette accusation, elle est, il faut le dire, moins étayée. Selon la lettre du ministre Abdoulaye Diop, les incursions aériennes françaises auraient servi à Barkhane, je cite, « pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes et pour leur larguer des armes et des munitions ». Donc ce sont des accusations, vous l'avez dit, très graves, mais là, pas de liste, pas de lieu, pas de date. Quand même, le chef de la diplomatie malienne assure qu'il dispose, et là je le cite encore, de plusieurs éléments de preuve. Il n'en fait pas état dans sa lettre, mais on peut du coup imaginer qu'il les réserve pour la réunion d'urgence qu'il demande au Conseil de sécurité de l'ONU.
Kassoum, vous avez une autre question pour David Baché.
Oui, je voudrais savoir encore quelle peut être la suite du processus au sein du Conseil de sécurité alors que la France est l'un des 5 membres permanents.
David.
Oui, c'est vrai. Alors, sur ce processus, l'ONU n'a pas encore été très claire, il faut le dire. Un porte-parole a juste précisé que le Mali, n'étant pas membre lui-même du Conseil de sécurité, sa demande devait à présent être relayée par un des pays membres du Conseil qui, une fois officiellement saisi, déciderait de répondre favorablement ou non à la demande de Bamako et donc d'organiser ou non cette réunion. Alors pour rappel, le Conseil de sécurité est composé des 5 membres permanents, dont la France, hein, vous l'avez bien dit Kassoum, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine. La Chine qui en exerce d'ailleurs actuellement la présidence. À ces 5 pays s'ajoutent 10 membres non permanents, dont plusieurs pays africains, le Kenya, le Niger et la Tunisie. Alors si l'un de ces 15 pays relaie la demande malienne, ce qui semble bien possible, hein, la Russie notamment est le nouveau grand allié du Mali, eh bien le Conseil décidera de tenir ou non cette réunion d'urgence. Ensuite, et vous avez bien raison de le relever Kassoum, la France est un membre permanent du Conseil, ça veut dire qu'elle dispose d'un droit de veto pour bloquer une éventuelle résolution. Mais ce droit de veto n'empêcherait pas le Mali de bénéficier d'une tribune de premier plan pour faire ses révélations sur un éventuel soutien de Barkhane au groupe djihadiste. Auquel cas, même si le Conseil de sécurité ne prenait pas immédiatement de résolution, eh bien, ces révélations ne pourraient pas rester sans conséquence. Le processus au Conseil de sécurité pourrait s'arrêter là. On attend encore les précisions de l'ONU. Mais la France, prise à partie devant le monde entier, serait bien obligée de répondre aux arguments, aux preuves que le Mali affirme détenir. La situation serait alors inédite, pour ne pas dire explosive.
Merci beaucoup David Baché pour ces explications. Kassoum, bonne journée à Bamako. La situation est toujours très tendue autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine. L'ONU craint même une catastrophe. Depuis des semaines, l'AIEA tente d'envoyer une mission pour inspecter la centrale, alors que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir bombardé cette même centrale. Khalid, bonjour.
Bonjour, bonjour Chantal.
Vous nous appelez de N'Djamena au Tchad. En ligne avec nous, Christine Dugoin-Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse pour la chaire RISC à Paris, à Sorbonne, et vous avez publié « Influence et manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques » chez VA Éditions. Khalid, qu'avez-vous envie de savoir ?
Bon, c'est Khalid Abdelaziz de N'Djamena. Je voudrais savoir la situation s'étend autour de la centrale nucléaire d'Zaporijjia. L'ONU crée une catastrophe. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de bombarder ces centrales. Bon, ma première question, est-ce qu'il existe des preuves tangibles qui pourraient incriminer l'un des deux pays ?
Christine Dugoin-Clément, qu'est-ce que l'on sait sur ces frappes contre la centrale, ou du moins les abords de la centrale de Zaporijjia ?
Alors, c'est justement une très bonne question, une question à laquelle il est difficile de répondre. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu différentes explosions et des bombardements. On connaît la nature des structures qui ont pu être atteintes au niveau de la centrale. Et on sait qu'à l'heure actuelle, ces bombardements, donc ces explosions, n'ont pas touché ce que l'on appelle des parties nucléaires, mais beaucoup plus des système d'infrastructures électriques notamment, mais ce qui pourrait avoir un impact très fort sur justement le fonctionnement de cette centrale. Comme vous l'avez dit, les deux côtés se renvoient la balle quant aux explosions, et il est à l'heure actuelle, dans le feu de la guerre, très difficile d'avoir des éléments qui soient absolument indiscutables quant à l'origine des uns ou des autres. Ce qui, par contre, a pu être observé par des vidéos différentes et variées qui ont été diffusées et dont certaines méritent encore d'être vérifiées, c'est qu'il y aurait eu du stockage notamment d'armements lourds et et de matériel de guerre au sein de la centrale, ce qui permet, si vous voulez, d'utiliser cette infrastructure qui est évidemment bien plus que sensible, puisque si elle venait à être atteinte, ce serait tout à fait catastrophique. Donc, d'utiliser la centrale comme étant une sorte de bouclier permettant de positionner du matériel militaire. Et c'est là toute la difficulté de cet enjeu-là.
Christine Dugoin-Clément, je suis désolée, je vais interrompre notre conversation parce que la ligne est vraiment trop mauvaise, elle est pleine de coupures et c'est difficile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va partir pour l'espace maintenant avec Philippe Berthe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur à l'Agence spatiale européenne, membre de l'équipe de gestion de mission Artemis 1. C'est Fred de Brazzaville qui aurait dû vous poser des questions sur ce sujet, mais il a eu un empêchement. Je vais donc me faire son porte-parole. Alors, la première mission d'Artemis, le nouveau programme lunaire de la NASA, doit décoller, si j'ai bien compris, le 29 août de Floride. Philippe Berthe, comment va se dérouler ce programme et quelle est la différence avec le programme Apollo ?
Donc, comme vous l'avez dit, le décollage se fera depuis le pas de tir 39B de Floride avec un lanceur nouveau qui s'appelle le SLS, le Space Launch System. Donc, le SLS injectera le véhicule Orion en orbite basse autour de la Terre. Il y aura des vérifications en orbite pendant environ une orbite, 90 minutes. Et ensuite, le SLS injectera le véhicule Orion dans une trajectoire translunaire. Donc en direction de la Lune, et il y aura 6 jours de voyage vers la Lune. Au bout de 6 jours, le véhicule survolera la Lune à basse altitude, environ 100 km, pour envoyer le véhicule vers son point d'injection en orbite autour de la Lune. Le véhicule sera en orbite autour de la Lune environ 10 jours après le lancement. Il y restera pendant 2 semaines, donc jusqu'au 24e jour de vol. Puis il quittera l'orbite lunaire, retournera vers la Lune, survolera la Lune à nouveau, à basse altitude et retournera vers la Terre et la capsule Orion ira se poser dans l'océan Pacifique au large de San Diego 42 jours après le lancement.
Pourquoi ce vol ? Oui, pardon, terminez votre phrase, pardon.
Oui, je voulais terminer sur les différences avec Apollo. Alors, les différences avec Apollo, c'est d'abord qu'on va avoir un véhicule qui a plus de capacité en nombre d'équipage, en durée de mission. Les missions Apollo, c'était quelques heures ou quelques dizaines d'heures à la surface de la Lune. Là, on vise des durées de séjour beaucoup plus longues. Il y a des technologies différentes. Par exemple, au lieu d'avoir de recours à des piles à combustible comme sur Apollo, on a recours à la technologie des panneaux solaires. L'autre élément, c'est que le programme Artemis, c'est un programme international de coopération, donc avec par exemple la participation de l'Agence spatiale européenne, mais aussi de l'Agence spatiale japonaise, de l'Agence spatiale canadienne. Et aussi, il y a la volonté de faire un programme pérenne, puisque bon, Apollo, ça a été 6 vols vers la Lune entre 1969 et 1972. Là, ce qu'on veut, c'est avoir un programme d'exploration sur une très longue durée de la Lune.
Alors tout à l'heure, le premier vol donc, qui va partir en Floride, de Floride bientôt, n'est pas habité. Il va falloir attendre 2024 pour qu'un premier vol habité, ça sera Artemis 2, s'envole dans l'espace et ne se contente pas de survoler la Lune. Ou est-ce que les astronautes vont se contenter d'abord de survoler la Lune ?
Oui, le premier vol habité, Artemis 2, est un vol de survol de la Lune, donc c'est une répétition générale, et la première mission habitée, c'est Artemis 3, qui est prévue pour 2025-2026.
Et là, il y aura une femme, la première, à mettre un pied sur la Lune.
C'est ce qu'ont annoncé effectivement l'Agence spatiale américaine, leur volonté d'avoir la première personne, la première femme, première personne de couleur aussi, puisque bon, ils font des distinctions sur les origines ethniques aux États-Unis. Et donc, ils veulent aussi ce facteur.
Et donc, cette première équipe restera combien de temps sur la Lune, sur le sol lunaire ?
On peut imaginer quelques jours, mais ça, je n'ai pas les précisions à ce stade. C'est en cours de définition.
Est-ce que c'est une nouvelle étape dans la compétition spatiale que se livrent les États-Unis, la Russie et la Chine ?
C'est pour moi un enjeu d'extension des activités humaines. Si vous raisonnez sur quel est le domaine actuel des activités humaines, en gros, l'homme est sur la surface de la Terre et puis jusqu'à environ 400 km d'altitude, l'orbite de la Station spatiale internationale et de la Station spatiale chinoise. Donc si vous prenez une sphère qui entoure la Terre de 400 km d'altitude au-dessus de la surface de la Terre, vous avez tous les hommes et toutes les activités humaines par des humains sont à l'intérieur de cette zone. L'idée, c'est d'étendre progressivement la zone des activités humaines au système Terre-Lune. pour que la Lune devienne un des éléments du domaine de l'homme.
Mais quand vous parliez d'installations pérennes sur la Lune, ce n'est pas pour des populations, mais pour des scientifiques.
Oui, on peut imaginer que ce sera un peu semblable à ce qui se passe pour l'Antarctique, par exemple. Effectivement, il n'y a pas des villes ou des villages en Antarctique, mais il y a des bases occupées par des scientifiques qui effectuent des recherches.
Merci beaucoup, Philippe Berthe, pour ces précisions. Je vous souhaite un bon week-end. On va passer au football pour terminer cette première partie d'appel sur l'actualité. Et on va parler des tensions au sein de l'équipe du Paris Saint-Germain. Bakélé, bonjour.
Oui, bonjour, Chantal Hérault.
Vous nous appelez de Lomé au Togo. À mes côtés en studio, Antoine Grenier du service des sports de RFI. Bonjour Antoine.
Bonjour Chantal, bonjour Bakélé.
Bakélé, c'est à vous, on vous écoute.
Bonjour fidèles auditeurs de RFI. J'aimerais revenir sur la récente tension entre Kylian Mbappé et Neymar da Silva Santos au Paris Saint-Germain. À ce propos, j'ai une série de trois questions.
On commence par la première, question, hein, d'accord?
Oui. La première question est la suivante. Leur bruit entre une telle division au sein du vestiaire.
Alors,
si tel est le cas, comment la direction souhaite-t-elle régler ce début de conflit?
Alors Antoine, d'abord, est-ce qu'on peut rappeler le motif de la brouille entre Mbappé et Neymar?
Oui, c'est des chamailleries de cours d'école qui prennent des proportions hallucinantes parce que c'est deux stars planétaires. En gros, pendant la victoire du Paris Saint-Germain contre Montpellier lors de la précédente journée de championnat, le Français, qui est désigné numéro 1, tireur de pénalty numéro 1 du Paris Saint-Germain, a raté son pénalty, tandis que le deuxième qui a été accordé aux Parisiens a été réussi par Neymar. Et le Brésilien, après la rencontre, a jeté un petit peu d'huile sur le feu en likant des messages sur les réseaux sociaux, des messages évidemment dithyrambiques sur sa manière à lui, à Neymar, de réussir à inscrire des pénaltys et qui se moquait, qui critiquait en tout cas la manière de Mbappé de les rater de son côté.
Alors, est-ce que le vestiaire s'est divisé entre les pro-Mbappé et les pro-Neymar?
Alors, c'est un peu l'illustration d'une intersaison compliquée pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu un changement d'entraîneur, il y a eu le feuilleton de Kylian Mbappé. Et plutôt que de parler de division, ce qui apparaît à l'heure actuelle, c'est qu'il y a Mbappé contre le reste du vestiaire du Paris Saint-Germain. Pour résumer, il n'est pas marginalisé du tout. C'est simplement qu'il a pris une très grosse importance pendant cette intersaison avec la renégociation de son contrat. Il a eu des exigences énormément. On en a beaucoup parlé de cette prolongation, de son éventuel départ au Real Madrid. Et les dirigeants parisiens ont cédé beaucoup de choses à Mbappé, à tel point que certains l'ont mal vécu, et notamment Neymar, qui est persuadé encore aujourd'hui que Kylian Mbappé a demandé sa tête, en tout cas a exigé son transfert pendant l'été, parce qu'il critiquait un petit peu l'attitude et l'investissement de Neymar au Paris Saint-Germain. Mbappé a démenti, mais du côté de Neymar et de l'entourage du joueur brésilien, on est toujours persuadé que Mbappé a demandé à ce que Neymar soit transféré cet été.
Alors Bakélé avait une autre question, quelles conséquences cet incident peut-il avoir sur le cas et vert?
Ben pour l'instant, Paris se porte bien sportivement. Hein. 3 matchs officiels, 3 victoires, 14 buts marqués. En fait, plus que simplement sur la saison, parce que Paris devrait être champion de France sans trop de difficultés et aller au moins au-delà de la phase de groupe de Ligue des Champions, voire espérer un petit peu plus. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette rivalité, elle s'inscrit dans une saison particulière où la Coupe du Monde arrive en plein milieu de la saison et donc les rivalités entre Kylian Mbappé, champion du monde en titre, hein, on le rappelle, et qui va aller au Qatar avec l'équipe de France, et Neymar, qui a de grosses ambitions pour cette prochaine Coupe du Monde. Ces bisbilles-là en club, est-ce qu'elles n'ont pas un petit... est-ce qu'il n'y a pas une petite arrière-pensée derrière d'essayer de déstabiliser un concurrent direct pour la Coupe du Monde? Peut-être qu'ils ne réfléchissent pas aussi loin, mais c'est intéressant de voir que Neymar est très très en forme dans ce début de saison, contrairement à Kylian Mbappé.
Merci beaucoup Antoine Grenier pour ces explications sur la brouille entre Mbappé et Neymar, donc, et sur la façon dont la direction du PSG gère les choses. On se retrouve tout de suite pour un nouveau journal sur RFI.